Bonjour à tous, donc rebonjour pour ceux que j'ai déjà croisés et bonjour à tout le monde. Je me présente très rapidement, je suis Nicolas Clerc, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de me rencontrer, alors pas l'an dernier parce que j'étais pas là, mais les années précédentes sur les différents Tech Days. J'interviens en tant que Microsoft Regional Director, donc une notion de partenariat assez avancée avec Microsoft. J'ai créé la société QueenMind l'an dernier et à ce titre, ben, j'interviens sur les différents événements comme les Tech Days suisses, les Tech Days français et ainsi que quelques autres événements. Voilà pour le blabla de présentation et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va voir l'utilisation de Windows Phone, donc un certain nombre de fonctionnalités qui gravitent autour de Windows Phone ou l'utilisation d'un certain nombre de services qui peuvent être très utiles à partir d'un Windows Phone. On va voir en premier la partie Windows Push Notification Service. Qui sait ce que c'est? Qui a déjà vu ce que c'est, que n'hésitez pas. Alors j'ai du mal à voir ce que j'ai les spots dans la figure. Voilà. Bon, il n'y a pas grand monde. Donc vous allez voir, c'est un des services qui est relativement simple à mettre en œuvre, qui est très important dans l'environnement Windows Phone et qui implicitement est mis en œuvre pour ceux qui ont déjà un Windows Phone 7. Qui en a déjà un? Ah, il y en a un peu plus. Donc là, vous allez voir ce que c'est. C'est notamment le service qui vous anime les petites icônes sur la page d'accueil quand vous avez des mails, des SMS qui arrivent. Il y a certaines applications qui le mettent en œuvre. Et ben là, on va le mettre en œuvre en live, en réel, cet après-midi. On va s'amuser à s'envoyer des notifications. Une petite partie intégration avec Windows Azure, puisque récemment Microsoft a sorti en mode open source, donc sur CodePlex, toute une librairie destinée à faciliter l'intégration du Windows Phone avec les différents services qui tournent dans Azure, que ce soit des services au sens web, mais aussi les fonctionnalités d'Azure comme le stockage ou comme l'exposition de services. Donc ces fonctionnalités-là sont maintenant accessibles de manière beaucoup plus simple à partir du Windows Phone. Et on va faire deux petits points sur la fin, sur des choses beaucoup plus pointues, plus précises au niveau du Windows Phone, tout ce qui concerne la partie interaction avec l'utilisateur, comment ça fonctionne au niveau du Windows Phone, comment on peut l'améliorer et surtout gérer de manière beaucoup plus fine un certain nombre de caractéristiques du Windows Phone, comme le multi-touch. Et un dernier point sur tout le côté performance, puisqu'on va voir qu'il y a des petits trucs à savoir. Alors, ça ne veut pas dire que si on ne les utilise pas, le Windows Phone est lent, ce n'est pas vrai, il est performant. Mais si on veut aller un peu plus loin et puis gratter un peu partout où on peut gratter de la performance, on va voir qu'il y a des petites choses assez simples qui permettent de faire ça. Qui est développeur Windows Phone dans la salle? Qui envisage de développer vers Windows Phone? Donc ça va intéresser pas mal de monde. Les autres, vous êtes là pour la culture technique? Bon, on va attaquer sur la partie push notification. Windows Phone a été pensé, toute la partie interface utilisateur a été pensée autour de l'expérience utilisateur. Donc je ne vais pas vous refaire un descriptif de l'interface métro, vous l'avez sûrement déjà vu, mais ces choix qui privilégient l'utilisateur ont un impact au niveau du développeur et un certain nombre de conséquences au niveau des possibilités de développement. Une des premières conséquences, et ce n'est pas forcément une bonne chose pour les développeurs, c'est que le développeur est un peu bridé. Il va être dans un environnement relativement cadré où il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il sera obligé de respecter un certain nombre de choses. Déjà, il est obligé de faire du .NET, donc que ce soit du Silverlight ou du XNA. Il n'a pas accès directement au matériel. On est obligé de passer par un certain nombre de classes d'encapsulation, d'accès au matériel, et on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Pourquoi? Tout simplement parce que le Windows Phone a la responsabilité de garantir à l'utilisateur la réactivité et la stabilité du système. Contrepartie, ben, le développeur un peu plus cadré pour éviter qu'il fasse un peu tout et n'importe quoi sur le périphérique. Une des conséquences principales est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de multitâche au sens applicatif dans le Windows Phone. Vous ne pouvez avoir qu'une seule application, non système, qui tourne à un instant T. C'est celle qui est visible. Éventuellement, elle peut rester en tâche de fond quand il y a l'écran de verrouillage qui est affiché, mais c'est tout. On ne peut pas avoir une application qui reste à s'exécuter en arrière-plan dans le Windows Phone pendant qu'une autre application est en train de tourner. La conséquence, c'est que toutes les applications qui nécessitent de recevoir des mises à jour de données, de déclencher un certain nombre de traitements de manière asynchrone et en tâche de fond, eh bien, on ne peut pas les implémenter avec le Windows Phone. Donc, pour pallier à ce manque, et sachant que de toute façon, les notifications asynchrones, les applications qui reçoivent des données de manière asynchrone sont une des caractéristiques de la mobilité. Microsoft ne pouvait pas se passer en fait, de ce type de fonctionnalité. Et plutôt que d'implémenter un multitâche applicatif qui fait en mode pull, je vais vérifier si j'ai des données, on a un système de notification push où c'est le Windows Phone qui va recevoir, quand il y a besoin, des notifications destinées à certaines applications. Donc il y a une API qui existe en standard dans le Windows Phone, ce qui va permettre de créer en fait ce type d'application et avoir des applications qui vont s'abonner à ces messages qui arrivent de manière asynchrone. Première chose, quand on développe une application Windows Phone, techniquement, bon, dans l'application Windows Phone, on va explicitement indiquer qu'on utilise le système de notification push, mais il faut que vous, développeurs, vous demandiez à l'utilisateur explicitement est-ce que oui, il accepte de recevoir des push. Tout simplement parce que c'est de la data qui circule, ça peut avoir un impact sur les forfaits. Si vous ne mettez pas en place ce système de questions-réponses, et tout ça, ça peut être une case à cocher dans les settings de votre application, l'application ne passera pas la certification du marketplace. Donc c'est un petit truc tout simple à savoir. Par défaut, n'utilisez pas le push. Demandez à l'utilisateur, est-ce que je peux utiliser le push ? S'il dit oui, vous l'activez. Sinon, eh ben, votre application devra se passer du push. Au final, c'est toujours l'utilisateur qui a raison. Donc le système de push et de notification de Windows Phone fonctionne avec trois principaux acteurs. Le Windows Phone et son application, ça c'est logique, on vient de voir que l'utilisateur interagissait au début. Un service qu'on appelle le MPN, le Microsoft Push Notification Service, qui est le service géré par Microsoft qui va avoir pour but de redescendre vers votre téléphone, vers votre application, le message. Et le troisième acteur qui est un service, une application quelconque qui tourne en dehors du Windows Phone, qui, elle, va avoir l'initiative de dire « Tiens, j'ai une application Windows Phone qui s'est enregistrée chez moi, je veux lui envoyer un message. » Donc pour ce faire, elle va envoyer son message au service de notification Microsoft qui va router vers le Windows Phone en fait, le message et les données qui sont associées. Donc pour faire plus simple, un petit schéma. Donc notre application, donc là, dans la démo, on va voir, je vais l'appeler City Push, mais bon, on peut l'appeler de la manière qu'on veut. Première chose à faire, l'utilisateur, qui devra accepter de toute façon l'utilisation du push. Notre service, qui tourne n'importe où sur Internet, dans Azure ou dans n'importe quel autre service, c'est une technologie, le système de push de Windows Phone, qui est totalement indépendante des technos. C'est-à-dire que pour moi, on va tout faire en .NET, en ASP.NET, en Silverlight, mais on peut tout à fait imaginer que le service que j'ai appelé City Service ici soit codé dans une autre technologie. C'est des URL, c'est du XML qui va circuler, il n'y a pas de dépendance technologique au framework .NET ou à une autre techno Microsoft. Et le système de push notification qui tourne dans Azure. Première chose, l'utilisateur va accepter que l'application utilise le push. Notre application va interroger le service de notification pour récupérer une URI. Une URL, c'est cette URL qui va identifier de manière unique l'abonnement de notre application sur ce téléphone. Donc le service renvoie l'URL à l'application. L'application, elle, va pouvoir l'utiliser pour s'abonner, pour recevoir les données quand elles arrivent sur le Windows Phone, mais aussi pour le communiquer à un service tiers. Ce service tiers va utiliser l'URL, qu'on appelle un channel en fait, en terminologie push notification, va utiliser ce channel en fait pour envoyer un message au push service de Microsoft qui va router vers notre téléphone le message en question. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de dépendance directe entre notre application et sa localisation et son mode de connexion, qu'elle soit en Wi-Fi, en 3G, en Edge ou en n'importe quel autre techno, et le service qui doit envoyer des données à cette application. C'est le service de push Microsoft qui sait gérer ça et qui sait communiquer les bonnes informations au bon téléphone. Nous, on se contente de dire, je veux envoyer un message à l'application qui a cet identifiant-là, qu'on appelle le channel. Les notifications, une fois qu'elles arrivent sur le Windows Phone, elles sont de trois types. La première, ce qu'on appelle le toast. C'est celles qui apparaissent un peu comme une pop-up qui descend sur le haut de l'écran. Vous l'avez peut-être déjà vu pour ceux qui ont un Windows Phone. Ce toast peut être représenté de deux manières. Une notification de type toast, elle peut être soit avoir sa représentation visuelle sous forme d'une pop-up qui glisse sur le haut de l'écran, soit être capturée directement par l'application. Si notre application est en train de s'exécuter quand une notification arrive, autant qu'elle la reçoive directement. Donc ça va être une possibilité aussi avec les toasts notification. Deuxième type, c'est les tiles. Les tiles, c'est les petites tuiles qu'on a sur l'écran d'accueil du Windows Phone, les carrés qui servent à lancer des applications Ces briques sont personnalisables de manière légère par le code de l'application, mais on peut aussi changer leur contenu, donc c'est-à-dire le texte qui est affiché en bas, il y a un petit compteur qu'on peut incrémenter ou décrémenter en fonction, et l'image de fond. Tout ça, c'est modifiable par l'intermédiaire d'un message de notification de type Tile. Bon, pour ceux qui ont un certain nombre de téléphones, HTC, par exemple, a mis en œuvre un système qui affiche la météo directement sur la brique de raccourci de l'écran. Utilise ce système-là pour rafraîchir à intervalles réguliers la météo. La troisième type de notification, elle n'a pas de représentation visuelle directe, ce qu'on appelle le mode RAW. Ça permet d'envoyer un flux XML directement à une application, sans avoir à respecter un formalisme bien précis édicté par le service de notification. Alors, attention, la partie donnée, ce qu'on appelle la charge de travail, le flux XML ne peut pas dépasser 1024 octets, 1 kilooctet. Donc ça permet d'envoyer un petit volume de données, ce n'est pas avec ce genre de système qu'on va synchroniser des bases de données. Ça permet éventuellement d'indiquer à une application, il y a une mise à jour disponible, envoyer un certain nombre d'informations liées à cette mise à jour, mais on ne va pas faire des synchronisations de bases de données avec ce système-là. C'est juste un système de notification. Donc on va voir comment on met ça en œuvre. Et on va utiliser... Hop là, je vais relancer mon Visual Studio. Je vais l'épingler à la barre des tâches, sera plus rapide. Toc. Et je vais créer une nouvelle application, Windows Phone, basique. Démo push notification. Alors, je ne vais pas m'embêter à faire joli, le but c'est vraiment de montrer le système. Et je vais lui mettre un bouton. Voilà. Que je vais appeler but register. Get push channel. C'est pour récupérer le canal de communication avec le système de notification. Le premier point de départ, c'est la classe qui s'appelle HTTP Notification Channel. Elle se trouve dans le namespace Microsoft Phone Notification. Là, je vais ancrer Notification Channel. Première chose à vérifier, c'est est-ce que l'on n'a pas déjà un canal de communication avec le système de notification qui existe déjà. Ça peut être le cas si votre application a déjà été lancée, c'est déjà enregistré auprès du service de notification. Donc la première chose, c'est de vérifier si on n'a pas déjà un canal qui existe. Donc je vais juste lui donner un nom. Hop là, push. Channel name. Hop là. La classe CurrentChannel contient un certain nombre d'informations. On va retrouver le channel name, le channel URI et un certain nombre d'événements comme le channel URI updated qui permettent de savoir si l'URI, donc l'identifiant de notre canal de notification, a changé. C'est possible ou tout simplement s'il vient d'être créé. Quand on a créé un canal de communication, à la base on n'avait pas de channel URI. Cet événement va être déclenché dès qu'on en aura eu un d'affecté à notre application. Donc la première chose, c'est de tester si on a un canal de communication qui existe. S'il existe, je le récupère. Déjà connecté. Sinon, eh bien, je vais le créer. Current channel est égal à new. J'ai besoin de lui spécifier un channel name et le service name qui est presque le même dans mon cas. On n'est pas obligé de les différencier. Voilà. On va s'abonner aux événements correspondants, donc channel URI updated, qui sert notamment à être informé quand on a récupéré. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai fait une faute. Push channel name. C'est push service name. Voilà. Mettre un point d'arrêt et on va mettre un point d'arrêt ici aussi et je lance mon application. Donc tout ça, ça tourne dans l'émulateur, si je pense à indiquer qu'on utilise l'émulateur. Sinon, bien entendu, ça tourne sur un vrai Windows Phone. Voilà. Donc l'application se lance. Si je clique sur Get Push Channel, je fais un Find, je récupère la valeur nulle. Mon application n'a pas encore créé de canal de notification. Donc, mon channel URI updated, derrière, il faut que je fasse un create. Open, pardon. Voilà. Éventuellement, j'ai un événement qui m'indique si des erreurs sont apparues pendant la création, et je peux les catcher. Alors, avec le Windows Phone, une grande partie des fonctionnalités sont nativement asynchrones. Ce qui veut dire que ces événements Current Channel Error Occurred et Channel URI Updated sont reçus dans un thread différent de celui qui a créé l'appel. Ce qui veut dire que, là en l'occurrence, je voulais tout simplement faire un message box pour afficher l'URI retourné par le service de notification, il faut que je pense à rebasculer dans le thread d'affichage de mon Windows Phone pour pouvoir afficher quelque chose à l'écran. Donc plutôt que de faire un message box direct, je vais utiliser mon dispatcher et une petite syntaxe bien pratique, c'est une lambda expression qui va me permettre de rebasculer dans le thread d'affichage et d'afficher quelque chose. Donc en l'occurrence, ici, je vais afficher le channel URI qui a été retourné par le service de notification. Le channel URI, c'est l'identifiant unique de mon canal de notification. Voilà. Hop. Voilà. En cas d'erreur, je vais faire à peu près la même chose, sauf que c'est un message d'erreur que je vais afficher. Et ici, bien entendu, je n'ai pas un channel URI dans le message d'erreur, mais je vais retourner un error message et puis éventuellement un error code aussi. Voilà. Donc je relance mon application. Mon émulateur est derrière. Je vais cliquer sur le Get Push Channel. Le find, bien entendu, me renvoie toujours nul, puisque j'ai rien derrière. Et je vais derrière faire un open. Ce open peut prendre un certain temps, puisqu'en fait, je vais dialoguer avec le service de notification de Microsoft. Donc là, on vient de voir, je suis retombé sur mon point d'arrêt derrière. Et du coup, il ne faut pas figer l'application pour autant. Si je regarde le e-event args, j'ai bien reçu un channel URI. Alors avec une URI, je ne sais pas si vous... vaut mieux la noter, mais si je souhaite envoyer un message de notification à mon application, il faudra que j'utilise cette URI-là. Donc là, maintenant, mon application a bien une URI. Le routeur du service de notification de Microsoft connaît cette URI et est capable de la redescendre, de redescendre un message vers mon application. Maintenant, il faut que je sois capable de traiter les différents messages qui arrivent au niveau de mon application et en même temps de la communiquer à un tiers pour qu'il puisse m'envoyer des messages. Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir sur mon application. Alors, bien entendu, si mon canal de notification existe déjà, je vais aussi m'abonner à l'événement Error Occurred, au cas où. Et en même temps, m'abonner à d'autres événements qui sont un peu plus intéressants, comme le HTTP Notification Received, qui est un événement déclenché quand mon téléphone reçoit un message de notification et que l'application est en train de s'exécuter. Parce que je vous ai dit que les applications, on ne peut pas en lancer plusieurs en même temps. Voilà. Donc là, je reçois ce message de notification. Je peux m'abonner à un deuxième événement qui s'appelle Shell Toast Notification Received. Quand je vais recevoir une notification de type Toast, si mon application est celle qui est affichée, qui est en train de s'exécuter, elle va pouvoir recevoir directement la notification. Et c'est à peu près tout. Je n'ai pas d'autres événements qui sont intéressants. Le point suivant à faire, c'est informer le système d'exploitation du téléphone que notre application est attachée à un canal de notification. Tout simplement parce que si l'application ne s'exécute pas, il faut que le téléphone soit capable de traiter les notifications qui arrivent pour éventuellement permettre à l'application de se lancer après coup. Donc là, on va utiliser les méthodes bind to shell tile. Donc ça, c'est pour traiter les messages de notification de type tile. Et bind to shell toast. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, même si notre application n'est plus en premier plan, n'est plus en train de s'exécuter, le système d'exploitation sera capable de lancer notre application de manière automatique, si besoin, quand une notification qui lui est attachée va arriver. Et donc, ces deux bouts de code, je vais aussi les recopier ici. Alors, hop. Alors, pas les binds, parce qu'eux, ils ont besoin de l'URI pour fonctionner. Les binds, on va les faire quand le... hop là. À ce niveau-là. Voilà. Quand le channel URI a été mis à jour, je fais le binding avec le système. Je vais juste rajouter un tout petit texte sur mon écran. Ça va être pour afficher le contenu des messages qui arrivent. Alors, text block. Et on va faire ça de manière jolie. Vous allez voir mes talents graphiques. Hop là, en jaune et en bold. Voilà. Donc, quand une notification arrive et que l'application est en train de s'exécuter, le message va s'afficher dans la textbox de l'application plutôt que de laisser le système d'exploitation afficher lui-même les éléments. J'ai de quoi afficher les messages qui arrivent dans mon application. Je me suis enregistré. Il me manque juste une petite chose. Le service qui va être capable d'envoyer des notifications à mon application par l'intermédiaire du service de notification de Windows Phone. Donc là, je ne vais pas le coder parce que on passerait juste la journée dessus. Je vais juste vous le montrer. Je vais ajouter un projet existant. Alors, toc, toc, toc. Voilà. Donc, c'est une application web classique, qui contient un service web et une page ASP. La page ASP, elle a pour but de me permettre de saisir un message à envoyer à tous les téléphones qui se sont enregistrés, qui se sont déclarés au niveau du service. Voilà, donc le message à envoyer, puis après on va voir que pour les tiles, je peux envoyer, modifier quelques infos. Le service en lui-même est relativement simple. C'est un service REST. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'y accéder sans avoir à créer un proxy, générer du SOAP. Je me contente de générer une URL, d'appeler l'URL, et puis c'est le service qui récupère les informations qui sont derrière. Ce service a une méthode qui s'appelle Register Push Client, qui permet à Windows Forms de communiquer l'URL, l'URI du channel à utiliser pour lui envoyer un message. Alors là, le code qu'il y a derrière, vous sautez pas au plafond parce que c'est vraiment brut de fonderie et c'est juste pour faire de la démo. Je me contente d'alimenter une liste statique qui contient toutes les informations, donc le nom du device et l'URL du channel à utiliser. Donc chaque fois qu'on appelle cette méthode-là, on vérifie si le channel n'existe pas déjà dans la liste, et si ce n'est pas le cas, on l'ajoute. Ensuite, j'ai une méthode getCollection qui me renvoie la liste des téléphones et des channels de notification déclarés, tout simplement pour me permettre moi de vérifier en tant que développeur les informations. Donc on va utiliser maintenant ce service à partir du Windows Phone. Je rajoute un bouton que j'appelle but register. Alors mon service s'appelle city service. Donc, voilà. On va enlever le button du début, ça fera plus joli. Voilà. Donc là, je vais tricher. Je vais récupérer un bout de code pour le faire. Plus rapide, je vais vous l'expliquer quand même derrière. C'est juste la création d'une URL. En l'occurrence, je crée une HTTP web request qui va appeler le city push service, donc le service que je viens de vous montrer, appeler la méthode register et lui passer le nom du device et le canal de notification à utiliser pour lui envoyer des messages. Donc register push. Service name, je vais juste mettre ça. Et le current channel, channel URI. Voilà. Et une fois que cet enregistrement est fait, j'affiche une pop-up, registration OK. Alors, hop, faut que je lance mon application en même temps. Je vais lancer mes deux projets. Hop. Donc, je fais un get push channel. Le find échoue, puisque je ne l'ai pas encore créé. Je demande la création d'un canal de notification, je l'ai reçu, je fais un bind to shell toast et bind to shell tile pour que mon Windows Phone soit capable de traiter les notifications qui arrivent et j'affiche l'URI à utiliser. Cette URI, je la communique à mon service métier, mon service fonctionnel qui va avoir pour rôle d'envoyer. Registration OK. Alors, hop, ici, j'ai la page d'accueil qui me permet d'envoyer des messages. Moi, je veux utiliser, alors, c'est mon service, qui s'appelle City Push Service. Alors, par défaut, il renvoie le get collection, sauf qu'il ne m'affiche plus le XML. Voilà. Donc, si j'affiche le contenu qui est renvoyé par le service, je retrouve bien la collection des devices qui se sont enregistrés et qui ont un canal de notification. Donc, mon service web, maintenant, connaît le canal de notification à utiliser pour envoyer des notifications à mon téléphone. Il va suffire que je fasse une boucle pour parcourir en fait cette collection et émettre les messages de notification. Donc pour ce faire, dans ma page default.spx, si vous avez fait jeter un œil, j'ai deux boutons, un qui envoie une notification de type toast et un qui envoie une notification de type tile. Je vais regarder la toast. Le principe est quasiment le même pour les deux. Un message de notification, c'est un flux XML. on indique que c'est une notification de type toast. Et les toast notification ont deux paramètres, texte 1 et texte 2. Il suffit que j'insère au bon endroit dans mon document XML les éléments envoyés et d'envoyer le message de notification. Donc ce qui est fait juste après. Donc là, je parcours la collection de tous les devices qui se sont enregistrés. Alors, vraiment pas beau, mais rapide. C'était vraiment dans le cadre de la démo. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est après. Donc je me crée une requête POST, une requête HTTP classique. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on peut tout à fait utiliser n'importe quel techno pour envoyer un message de notification. Ici, c'est fait en .NET, mais quel que soit votre langage ou la technologie que vous utilisez, il suffit de créer une requête HTTP POST, de mettre les bons headers et les bonnes données, de les envoyer au service de notification. Derrière, ça fonctionnera. Donc là, j'indique qu'il s'agit d'une notification de type TOAST. La classe de notification 2, ça indique en fait la criticité du message et puis les délais acceptables en termes de propagation. Un ID de message, c'est facultatif, mais ça peut être intéressant pour éviter de traiter des doublons, par exemple. Et ensuite, je formate mon message. C'est le XML. Et je vais remplacer les accolades, accolade 0, accolade 1 par un message tapé dans ma, dans ma page HTML et un message codé en dur, TechDays 2011. Le contenu doit être encodé en binaire. Petit bout de code, encodé en UTF-8, je récupère la taille, je positionne le content length que je renvoie, c'est du XML, donc bien entendu, on a bien mis le content type à text XML, et ensuite, j'envoie sur l'URI du channel, donc le fameux URI qu'on a vu tout à l'heure, c'est sur cette URL-là qu'il faut envoyer le message de notification. Donc en gros, la requête que j'ai créée, j'ai bien fait un create sur le channel en fait, de notification à utiliser. Et ensuite, ben, j'envoie le message. En retour, je récupère trois informations, notification status, subscription status et device connection status, qui me permettent de savoir si oui ou non mon message a été remis, si le device était connecté ou pas, et ainsi de suite. Donc je peux me permettre éventuellement de traiter ça et de réémettre des notifications plus tard si elle n'a pas été reçue. Voilà, pour envoyer une notification toast, c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, que mon application s'est abonnée, qu'on a bindé le canal de notification avec le Windows Phone, ça va marcher. On va quand même croiser les doigts, je tout fais en live. Et je relance tout ça, ça tournait déjà. Donc je reprends ma page HTML, je reprends mon émulateur Windows Phone, ce qui tourne toujours. Et on va envoyer un message de notification, coucou Genève, de type toast. Et normalement, ça devrait marcher. Ce qui n'a pas été le cas. Et pourquoi? Qui a suivi? Personne n'a suivi. Tout simplement parce que dans le toast event, je ne sais plus où il est, je n'ai rien mis. Donc il faut peut-être mettre un bout de code pour alimenter mon label. Alors, toc, 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 voilà, et je ne sais plus comment je l'ai appelé, mon message. Toast, voilà. Texte égal. L'événement de notification reçoit une collection. La collection va contenir en fait une ensemble de, c'est un dictionnaire qui, à partir d'un nom de propriété, me renvoie sa valeur. Et en l'occurrence, ici, je vais avoir à utiliser comme nom de propriété celui-là, WP texte 1 ou WP texte 2. Alors, toc. Donc là, ça va me permettre de traiter de manière applicative la notification qui arrive. Je vais mettre un point d'arrêt. Je relance tout ça. Alors, get push channel. Là, on voit que Lors de l'exécution précédente, j'avais déjà fait un create channel. Mon Windows Phone n'a pas redémarré, il n'a pas rebooté, je n'ai pas réinitialisé l'émulateur, donc il se souvient de l'attachement entre un canal de notification et mon application. Et en l'occurrence, ici, ben, je récupère déjà le canal existant. Donc je me contente derrière de me réabonner aux événements. Et ici, j'aurais pas dû faire le bind puisque hop, mon application est déjà bindée. Voilà. Je me redéclare au service pour être sûr qu'ils connaissent mon URL et Genève 2011. Toast. Mon point d'arrêt dans l'événement Toast est bien déclenché. Si je regarde ma collection, un petit quick watch, je récupère bien mes différents messages. Le texte 1, il est là. Le texte 2, il est là aussi. J'enlève mon point d'arrêt. Voilà. Tech Days 1. Donc j'ai bien eu mon message. Donc là on a fait un aller-retour. Hein. Mon service web a posté dans un service qui tourne sur Azure la notification envoyée. Le service de notification Microsoft connaît le canal et sait comment redescendre ça à mon Windows Phone. C'est redescendu sur mon Windows Phone. Ça aurait été valable si ça tournait sur mon device en réel. Je retourne ici sur l'écran d'accueil principal et je renvoie un deuxième message. Mon application ne tourne pas, du coup, c'est le Windows Phone qui m'affiche la notification sous sa forme classique, la petite pop-up qui apparaît. Je n'ai pas été assez rapide, je vais la renvoyer. Et donc là, si je clique en fait sur ma notification, vu que le Windows Phone sait à quelle application est attachée la notification qui a été reçue, je bascule directement sur la bonne application. Je vais revenir sur l'écran d'accueil ici et je vais punaiser mon application sur l'écran d'accueil. C'est ça qu'on appelle une tile, la petite brique carrée. Par défaut, c'est les informations qui étaient définies dans mon projet qui sont affichées, l'icône et le petit texte qui est en bas. Sauf que ces informations-là, je peux les changer par notification. Donc là, ce coup-ci, je vais mettre un compteur, 10 par exemple. Je ne sais pas c'est quelle heure, c'est 14 heures. Tiens, hop, on va mettre 14. Je fais tile. Mon application ne tourne pas. Par contre, l'icône de mon application a été mise à jour. Alors j'ai un petit souci dans l'émulateur avec l'image de fond. C'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. Mais on a la possibilité du coup d'interagir sur l'icône de l'application, et ça permet éventuellement d'afficher des données pertinentes par rapport à l'application. Si c'est une application de météo, bon, on va afficher la date ou le changement de temps, sans que l'application ait à être lancée, et sans que l'utilisateur ait à faire quoi que ce soit. Donc on retrouve ce côté attention portée à l'utilisateur dans la partie IHM. Un petit point auquel il faut faire gaffe, si par hasard une notification échoue, ça peut arriver si notamment quand on fait des développements, on envoie du XML qui est mal formaté, avec des erreurs dedans. Automatiquement, dès qu'il y a une erreur à ce niveau-là, le Windows Phone annule l'attachement entre une notification, une application et le système d'exploitation. Donc il faut refaire un bind et recréer un canal de communication. Donc c'est des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Voilà, donc là si je m'amuse encore à changer le texte, bien entendu. Ça va fonctionner. Voilà. Donc voilà pour cette partie notification. La partie pour envoyer une notification de type tile, c'est quasiment la même chose que pour une notification de type toast. La principale différence, c'est le XML à envoyer qui est légèrement différent. Au lieu d'avoir un WP toast, on a un WP tile. Et dedans, on a trois propriétés. L'URL de l'image à utiliser quand on veut changer l'image de fond de la brique. Le compteur, c'est le chiffre qui apparaît dans le petit rond, et le texte qui apparaît en bas de l'écran. Une fois qu'on a généré ce XML, il suffit de pousser la notification, elle va arriver sur le Windows Phone. Voilà pour cette partie push notification. Alors après, le système existe. J'ai utilisé la version gratuite, enfin gratuite, sans sécurité particulière du système de notification, à savoir on n'a rien à faire. Vous avez vu, je l'ai fait en live, je n'ai pas utilisé de clé, de certificat ou quoi que ce soit. Il y a une limitation, c'est sur le volume de notifications journaliers qu'on peut envoyer. Si vous avez besoin de mettre en place une application ou un site qui va émettre des centaines, voire des milliers de notifications par jour, Microsoft va vous demander, via la console d'administration du Marketplace, de créer un certificat pour en fait sécuriser et authentifier les notifications que vous envoyez, tout simplement pour éviter des systèmes de spam via la partie push notification et des applications qui pourraient détourner ce système-là. C'est une manière aussi d'empêcher de faire de la synchro de base de données directement à partir des messages de notification. Voilà, bon, pour cette partie push notification, le troisième cas qui était le mode RAW, c'est exactement le même principe. On émet un message XML et là vous êtes totalement libre de la structure du message XML que vous voulez envoyer dans la limite de 1024 octets. Après, votre application va traiter directement ce message-là et faire ce qu'il faut derrière. Un petit point par rapport à l'intégration avec Windows Azure. Alors là, indirectement, on a utilisé Windows Azure avec le push notification, puisqu'en fait, le service de notification Microsoft qui descend les messages vers les Windows Phone tourne dans Azure. Mon service web, le City Push Service, tournait sur ma machine locale pour des questions de développement, mais j'aurais tout à fait pu le mettre dans Azure. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'utilisation d'Azure à partir du Windows Phone nécessitait pas mal de développement parce que le Silverlight qu'on a d'intégrer dans le Windows Phone ne supporte pas nativement tous les bindings ou toutes les fonctionnalités, les caractéristiques d'Azure. Donc quand on souhaitait interagir notamment avec la partie stockage d'Azure, donc les tables, les blobs ou les fils, on était obligé de passer par systématiquement les API REST et formater des URL, encoder des flux HTTP. C'était faisable, mais ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus sympathique et puis de plus de code à valeur ajoutée par rapport à nos applications. Je ne vais pas vous refaire le petit laïus sur Platform as a Services et tout ça. On pourra toujours en reparler à la fin si vous le souhaitez. Je vais me concentrer sur la partie intégration avec Azure. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, Microsoft a sorti sous forme de projet open source un projet qui s'appelle Windows Azure for Windows Phone Toolkit, qui est une ensemble de librairies destinées aux Windows Phones afin de faciliter l'intégration avec Azure et de ne pas avoir à se prendre la tête avec ces histoires de formalisme URL, de formater des flux et des requêtes HTTP, tout simplement quand on veut pousser une image ou un élément dans un stockage, par exemple. Donc en fait, ce WA Toolkit WP7 est disponible sur CodePlex, il a quelques jours, donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour le moment, il est relativement basique, mais ce qu'il y a dedans, pour les développeurs qui vont avoir à utiliser Azure, va vous simplifier la vie grandement. Un nouveau template de projet qui a l'avantage d'être un exemple, on va dire, de tous les concepts à mettre en œuvre pour une bonne intégration avec Windows Azure. Ça peut être un point de départ pour vos projets ou tout simplement pour regarder un peu comment on peut faire pour attaquer Azure à partir du Windows Phone. Une librairie OData. OData, c'est un protocole destiné à requêter des jeux de données à travers des URL avec un formalisme prédéfini. C'est utilisé notamment par un certain nombre de services, notamment ceux qui sont exposés par Dallas. Alors, je ne me souviens plus du nom de commercial. Dallas, c'était le nom de code. C'est le marketplace pour les données qui gravitent autour d'Azure. Il y avait une librairie pour Silverlight qui existait, mais elle n'était pas compatible avec Windows Phone. Il y avait quelques petites subtilités qui ne passaient pas avec le Silverlight du Windows Phone. Donc le Windows Azure Toolkit vous apporte cette librairie version Windows Phone qui tourne à 100%. Donc si vous avez des jeux de données exposés sous une forme OData, eh ben, vous pourrez les attaquer directement à partir de avec cette librairie. L'autre librairie qui a très intéressante, c'est le Storage Client. C'est une librairie Silverlight pour récupérer les éléments qui tournent, en fait, qui sont stockés dans la partie stockage d'Azure. Donc là, c'est la démo qu'on va faire. Je vais récupérer un projet, parce que je vois l'heure qui tourne. Et puis, il y a encore pas mal de choses à évoquer. Toc. Je viens de recevoir une notification. Ça n'a rien à voir avec la démo, par contre. Hop là. Démo Azure Storage Client. Voilà. Donc là, c'est une petite application qui va me permettre de prendre une photo à partir du Windows Phone et de stocker cette photo, non pas en local, mais dans un partage dans Azure, donc à savoir dans un storage client, dans un blob, un container de blob, dans lequel je souhaite uploader directement la photo. Au passage, quand on souhaite utiliser les périphériques ou le matériel du Windows Phone, on ne le fait pas directement, on va passer par ce qu'on appelle des tasks. Et en l'occurrence, j'en ai une qui s'appelle Camera Capture Task, qui va me permettre de prendre une photo et de récupérer l'image sous la forme d'un stream dans l'événement CCT Completed. Donc là, cet événement-là, dans mon photo résulte, je vais avoir une propriété qui s'appelle Chosen Photo, qui correspond au stream, à un flux de l'image qui a été capturée, une JPEG en l'occurrence. Cette image, je souhaite l'uploader dans Azure. Dans Azure, j'ai un storage que j'ai appelé Chlorophyll, que j'ai depuis quelques temps, et j'ai un container. Dans ce container, je souhaite stocker toutes les photos que je prends. Donc là, je vais utiliser un petit utilitaire pour aller dans Azure. Et j'ai un container qui s'appelle TechDash Genève, que j'utilise en fait pour stocker les informations. Donc là, ce container, il tourne dans un data center. En fait, les données sont hébergées en Irlande. Donc j'ai choisi, quand je l'ai créé, le data center irlandais d'Azure. Et je souhaite prendre une photo, uploader la photo dans ce container. Et pour ce faire, je vais utiliser la librairie Storage Client qui est disponible dans le Windows Azure Toolkit for Windows Phone. Ce n'est pas ça dont j'ai besoin, c'est ça. Et qui va me permettre de faire ça de manière relativement simple. Donc déjà, j'affiche un message comme quoi l'image a bien été capturée au niveau du Windows Phone. Et ensuite, je vais utiliser le Cloud Bob Client. Alors Bob, ce n'est pas l'ancienne interface utilisateur d'il y a quelques dizaines d'années chez Microsoft. C'est le Blob Binary Long Object que je souhaite stocker. L'URL du container de stockage, donc chlorophyll.blob.core.windows.net, c'est standard, / TechDash Genève. TechDash Genève, c'est le nom du container dans lequel je souhaite le mettre. Et les informations d'authentification. La lecture de ce container est libre, mais l'écriture nécessite une authentification. Et en l'occurrence, j'ai une clé que je ne vais pas vous montrer, qui me permet d'écrire dans ce blob. C'est une signature numérique qui est générée par Azure quand on crée des zones de stockage. Ensuite, je fais un upload dans ce blob, dans ce container de blob. Je passe un nom à mon blob, donc le nom de l'image en l'occurrence, qui est dans une textbox, et le flux, c'est un stream. Donc je récupère directement ce que m'a renvoyé la capture task de Windows Phone. Et une fois que tout ça s'est fait, j'exécute ce petit bout de code. Et en gros, j'affiche le message « Téléchargement OK » au niveau du Windows Phone, une fois que mon image est dans Azure. Donc, on va lancer cette appli. Ah, normal, je l'ai mis en Windows Device. Hop, il faut que je lance l'émulateur. Voilà, donc là, c'est mon application. Image Genève. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le clavier avec l'émulateur. Je vais l'appeler émulateur. Ah, c'est plus rapide comme ça. Prendre une photo. Alors, dans l'émulateur, on n'a pas d'intégration à une webcam ou autre chose. On est obligé d'utiliser une espèce de petit carré qui se balade. Donc j'accepte. Mon application dit c'est bon, j'ai récupéré l'image de Windows Phone et l'upload commence. Alors ça a été assez rapide. Téléchargement OK. Donc là maintenant, si je retourne voir dans mon outil de visualisation de mon container de stockage, je vais faire un refresh. Et là, j'ai bien une nouvelle image. Hop là. Qui s'appelle Image Genève, c'est bien le nom que j'ai mis dedans. Et si je double-clique dessus, je récupère bien une belle image de l'émulateur qui simule la caméra. Donc pour vous montrer que ça marche en vrai, Alors, sous réserve que le Wi-Fi marche, voilà, j'ai la même application, pour ceux qui voient, qui tourne sur mon téléphone, qui s'appelle Image Genève. Alors, je vais attendre qu'il ait accroché le Wi-Fi et je vais prendre une photo. Ça a marché tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous pouvez faire un coucou, pour ceux qui ont envie. C'est l'heure de la digestion. Voilà. Je l'effacerai tout de suite derrière. Voilà. Picture OK. Voilà. Et voilà. Bon, ben, j'ai pas de réseau, donc j'ai une belle erreur. Je referai ça tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés. Dès que le. Ouais, ça a fonctionné tout à l'heure, mais là, j'ai plus de Wi-Fi. Enfin bon. Voilà, le principe est là. Je l'ai fait juste avant la session. Ça a bien marché en plus. On va refaire un petit essai. Là, j'ai le. Voilà, hop là. Alors, j'ai très peu de réseau. Non, ça passe pas. J'ai pas de Wi-Fi, tant pis. J'activerai le roaming tout à l'heure pour que ça fonctionne. Voilà, le principe est là. Et du coup, j'ai une librairie qui, en trois lignes de code, me permet d'uploader des fichiers et de manipuler tout le stockage d'Azure sans avoir à écrire une seule URL. C'est surtout ça qu'il faut retenir de cette librairie qui est relativement intéressante. Alors, hop là. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Un point rapide sur la partie touch et multi-touch. Les Windows Phones sont multi-touch. Ils supportent jusqu'à 4 points de contact, en fait. Donc, on peut s'amuser à 4 doigts sur l'écran. Les applications peuvent, bien entendu, récupérer toutes ces informations de deux manières. La plus basique, c'est utiliser les événements mouse exactement comme en Silverlight. Alors, ça permet de récupérer un point de contact. Ça simule la souris, ça permet de porter des applications facilement. Dès qu'on veut gérer le multi-touch ou la notion de gesture, donc le zoom avec les deux doigts, le pan and tilt, ce genre de choses, on peut utiliser l'API gesture qui permet de capturer tous ces mouvements directement au niveau du Windows Phones, de Silverlight, et de les traiter dans l'application, d'interagir avec une transformation de zoom, par exemple. Ça marche très bien. Il y a une petite contrainte, c'est que les points de contact doivent être sur le même objet, le même contrôle. Si par hasard on a une interface utilisateur avec deux objets distincts, deux contrôles utilisateurs distincts, et on souhaite que simultanément on puisse gérer des manipulations graphiques sur ces contrôles-là, je prends l'exemple de curseurs pour manipuler la vitesse des roues d'un petit bolide ou ce genre de choses, eh ben on va être vite embêté parce qu'il n'y a qu'un des contrôles qui va recevoir les événements. On a un moyen de passer outre cette limitation, c'est de redescendre un cran plus bas et de récupérer directement les événements de notification système, les touch, les points de contact capturés par l'écran. On perd l'analyse automatique du type de mouvement qui est fait par l'utilisateur. La contrepartie, c'est que l'application est libre de faire ce qu'elle veut des points de contact qui ont été recensés au niveau de l'application. Donc là, en l'occurrence, on va avoir un événement qui s'appelle Frame Reported au niveau d'une classe statique touch. Donc on ne travaille plus au niveau du contrôle ou au niveau de l'objet, mais on travaille au niveau de l'API multi-touch du Windows Phone. On capture cet événement, et chaque fois qu'il y a un point de contact ou un changement de position d'un point de contact, l'application en est notifiée, et après elle en fait ce qu'elle veut. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Si je m'y retrouve, hop là. Touch et multi-touch. C'est une application où j'ai deux curseurs, en fait. Le principe, c'est de tenir son Windows Phone comme ça. Et puis, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir un AirDrone de Parrot, c'est un peu le même principe. C'est de pouvoir piloter son bolide, sa voiture radiocommandée, avec les pouces pour régler la vitesse. Du coup, pour ce faire, j'ai utilisé l'API Touch directement pour catcher les événements, les points de contact, puisqu'en fait, je souhaite manipuler deux curseurs. Celui qui va me permettre de régler la vitesse de droite et celui qui va me permettre de régler la vitesse de gauche. Je n'aurais pas pu utiliser l'API de gesture parce que c'était deux contrôles différents. Là, je travaille au niveau des événements système point de contact. Je vérifie qu'ils ont eu lieu, bien entendu, au-dessus du bon point de la bonne zone sensible et je les traduis en changement de curseur, en changement de valeur sur mes curseurs. Donc là, je relance mon émulateur. Donc l'application s'exécute et Si je touche ici, ça fonctionne bien. Si je touche ici, ça fonctionne bien. Et j'ai la chance d'avoir un écran tactile. Donc si je m'amuse à toucher les deux, je peux gérer vraiment de manière complètement indépendante mes deux curseurs. Donc ça, on est obligé de passer par l'événement frame reported du framework de base. Et pour ce faire, c'est relativement simple dans l'absolu. Ce qui est plus compliqué, c'est de traduire les points de contact en mouvement et les traiter derrière. Donc là, sur la classe, sur le constructeur de mon application, l'événement frame reported, je le catch et je le traite. Je vérifie que les points de contact que j'ai reçus se trouvent au-dessus de mes deux zones sensibles. C'est les rectangles verts qu'on voit sur l'application. Hop là, touch et multi-touch, voilà. Donc c'est ces rectangles verts. Si c'est pas le cas, bah je fais rien. Sinon, bah je les convertis. Donc là, c'est une petite formule mathématique. J'utilise pour convertir la position des points de contact en valeur sur les sliders sous-jacents. Et ce faisant, bah je gère mes points de contact comme je l'entends et je réutilise, bien entendu, bah les contrôles silverlight qu'il y a derrière, les sliders, éventuellement les événements attachés au changement de valeur sur les sliders de manière complètement indépendante du fait qu'ils aient été animés par un touch. Hop là. Un petit point très rapide sur le modèle de threading de Silverlight. J'ai déjà évoqué juste avant que le modèle de threading, on avait un thread qui gère l'affichage, qui sert notamment à créer les éléments graphiques, donc qui charge le XAML, qui instancie le XAML, qui gère l'interaction avec l'utilisateur, donc tous les événements liés à l'écran, au clavier virtuel, sont exécutés dans ce thread, et il se charge du rendu graphique initial, c'est-à-dire que la première image de votre application est calculée par le thread UI. Ensuite, on a un deuxième thread, et ça c'est une des particularités de Silverlight pour Windows Phone, qui s'appelle le Composition Thread. Ce thread a un rôle particulier, c'est d'essayer de sous-traiter un maximum de choses au GPU qui se trouve dans le téléphone, puisqu'en fait tous les Windows Phones ont une puce graphique qui accélère un certain nombre de traitements, et ces traitements sont transférés au GPU par le Composition Thread. Donc tout le but, dès qu'on souhaite un peu optimiser le rendu graphique d'une application, c'est de se débrouiller pour qu'en fait on ait un minimum de choses qui bloquent le UI thread, tout simplement pour conserver une application réactive, faire un maximum de choses en asynchrone, donc à travers des threads qui sont lancés en arrière-plan, c'est ce qu'on a fait juste avant dans les différentes démos, et dès qu'on peut, essayer de sous-traiter des éléments à la partie accélération graphique qui est traitée via le GPU. Donc notamment, c'est tout ce qui est manipulation, utilisation des transformations qui vont permettre de... Enfin, tout ce qui est animé, rotation, déplacement, ce genre de choses vont être accélérées par le GPU. Si par hasard, vous déplacez un élément, non pas avec le GPU, mais en changeant ses coordonnées ou en jouant sur les marges, il ne va pas être accéléré. Si vous déplacez un élément graphiquement en utilisant une Translate Transform, par exemple, eh bien, son déplacement, son rendu graphique sera pris en charge par le GPU. Donc dans la conception de vos applications, c'est ce genre de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et je suis en retard. La partie ressources réseau, pensez à utiliser HTTP Web Request plutôt que le Web Client, tout simplement parce qu'il est un peu plus optimal et surtout l'asynchronisme, vous le gérez de manière très fine. Pensez à splitter vos applications en plusieurs assemblées, tout simplement parce que c'est le UI thread qui se charge du chargement des éléments. Votre application, si elle est très grosse, le temps de chargement initial sera très long. Il vaut mieux avoir un exécutable, un XAP de base qui est très léger et les autres éléments graphiques, les fenêtres, les traitements, les mettre dans des assemblées à part qui, elles, seront chargées à la demande. L'utilisateur récupérera une application beaucoup plus rapidement quand il va demander que si tout doit être chargé à l'avance. On n'a pas le temps, les démos. Je vous mettrai de toute façon tous les codes sources en ligne. Pour la partie optimisation graphique, il y a un contrôle, le progress bar. C'est celui qui fait afficher les 5 petits points de couleur qui défilent quand l'application est en train de faire quelque chose en arrière-plan. Celui implémenté par défaut dans le Windows Phone a un bug de performance. Il a tendance à consommer énormément de ressources graphiques. Du coup, il vaut mieux utiliser une autre progress bar qui s'appelle le Performance Progress Bar, qui est disponible soit sur le blog de Jeff Wilcox, qui l'a fait à la base. Maintenant, il a été intégré dans le Windows Phone Toolkit, qui est téléchargeable en fait sur CodePlex. Donc, utilisez le Performance Progress Bar plutôt que le Progress Bar standard de Silverlight pour Windows Phone. Voilà. À quelques minutes près, je suis pile poil dans les temps. Je vous remercie. S'il y a des questions, il doit rester quelques minutes. Sinon, je vous propose qu'on se retrouve soit à la sortie de la salle, soit au stand expert par la suite. Voilà.
Vu là, je pense que ce serait mieux, effectivement. Donc, merci à toi. Merci beaucoup pour ta présentation et cette vision un peu plus avancée de ce qu'on a pu voir ce matin. Je vous rappelle que la semaine prochaine a lieu l'événement Mix, où il y aura sûrement pas mal de sessions qui vont parler de Windows Phone, développement sur la plateforme et peut-être des annonces sur la plateforme elle-même. Donc ça aura lieu aux États-Unis, mais il y aura des annonces que vous pouvez retrouver sur vos blogs préférés ou directement sur les sites Microsoft qui seront annoncés suite à l'événement. Voilà, donc on va faire une pause de 15 minutes et on revient dans un moins quart pour...